Georges Baume. Au Petit Paris. Chapitre 1. Monsieur Pouget, l'épicier, un épicier aristocrate, portant lorgnon d'or et lisant la revue des deux mondes, bavardait ce matin sur le pas de sa porte avec Monsieur Courtès, le chapelier. Aussi grands et minces l'un que l'autre, la peau ambrée et luisante, ils se flattaient d'être les plus anciens du quartier de la place, au centre de la jolie ville d'Usclas, en bas Languedoc, et de défendre jalousement sa figure traditionnelle, surtout la rangée de maisons qui, sur le côté nord du carreau de la halle, s'adossent à la haute muraille de l'église, dont le clocher hardi érige dans le soleil son coq écarlate. Après les épices de Pouget et les chapeaux de Courtès, il y avait les draperies du père André et les bocaux du papa Azéma, le pharmacien. « Oui, dit Monsieur Pouget, il paraît que le jeune Lagrifoule veut acheter la grande maison du père André et la rebâtir de fond en comble. Il aurait bien pu rester à Paris avec son progrès. Le progrès de quoi? Est-ce que les clients dépenseront davantage parce qu'on les recevra dans un beau magasin? On dit qu'il est un peu fou, ce Lagrifoule. Tais, le voilà !» En effet, Isidore Lagrifoule, que les familiers appelaient simplement Zidore, sortait de la halle, une halle antique, dont les huit piliers, pareils à des tours de forteresse, soutenés par une charpente de l'art le plus savant, une drôle d'énorme toiture, construite en forme de gabarre à l'envers, que tapissait une mosaïque de tuiles vertes et jaunes, où se pavanaient du matin au soir des pigeons ramiers, qui, par intermittence, s'envolait à l'improvise avec des froissements soyeux d'ailes claquantes. Lagrifoule était, à ses 30 ans, un garçon de petite taille, véritable mouricot, à la figure vive, ornée d'une barbe en pointe, aux mains toujours en mouvement, comme ses jambes. Il avait un défaut terrible, ou plutôt deux, un orgueil puéril, une extraordinaire versatilité d'humeur. Le moindre échec le déconcertait. Monsieur Pouget et Monsieur Courtès, oubliant leur médisance de tout à l'heure, l'interpellèrent sur un ton de complaisance. « Eh bé, il paraît que tu achètes la maison du père André et que tu veux bouleverser le quartier. »« Bouleverser, diable, je ne suis pas un révolutionnaire. »« Enfin, tu ne dis pas non, et tu ne vas plus à Paris ?»« Qui le sait ?» Et Lagrifoule, agitant ses bras, secouant sa petite tête ronde qui s'enfonçait entre des épaules pointues, se hâta vers la rue Saint-Jean qui tourne à droite l'angle de l'église. Vers le milieu de cette rue bizarre qui... entre des maisons poudreuses et souriantes, les unes en retrait pour former des placettes, les autres en lignes sinueuses, décline doucement, sa mère tenait une boulangerie plus que centenaire. Elle vivait seule, tranquille, propre comme un anneau, avec son tablier de lustrine noire, sa collerette blanche, le bonnet noir liséré de blanc qui encadrait sa grosse figure bienveillante. Réussirait-elle, cette fois, à garder son parisien de Zidore dans son pays agréable, le plus agréable de tous, puisqu'elle n'en connaissait point d'autre? Elle avait mis beaucoup d'argent de côté, près de 150 000 francs, déposés à la banque de M. Gauzy. Elle possédait cette maison de la rue Saint-Jean, de si grande valeur à cause du four, plus un grand jau sur le coteau de la Roussanienque, à l'extrémité d'une superbe vigne complantée d'oliviers, dont le feuillage d'argent scintillait au loin comme une traînée de perles. En ce moment, Madame Lagrifoule dressait le couvert sur la table ronde, au milieu de la boutique, en face du four, et, gourmande, elle surveillait deux pigeons à la catalane et deux rougets rissolant dans l'huile de la poêle. Dès que Zidore eut descendu les deux marches du seuil, elle lui fit un sourire qui éclaira ses traits fins, intelligents, embrumé de mélancolie. Qu'as-tu fait en ville, Zidore ?
Rien, seulement les gens s'occupent beaucoup de moi.
Pardi, ça plairait à tant de monde que tu restes à Usclas. Tu y deviendrais si vite un personnage dans cette maison du père André.
Il faut savoir d'abord combien il en veut.
Alors, tu es décidé ?
Eh bien, oui, là !
Maman Lagrifoule se redressa dans son ravissement. « Ah, que je suis contente !» Elle saisit son fils entre ses bras et il sentit avec douceur des larmes tomber sur ses joues. Quelques minutes, ils gardèrent le silence. Mais le souci du fricot rappela maman Lagrifoule. Enfin, ils se mirent à table.
Il faut songer à une chose, mon fils.
Quoi donc ?
Te marier.
J'y songe. J'ai mon idée.
Avec qui ?
Depuis la guerre, les filles ne manquent pas et qui ont de quoi.
Seulement, ne t'entiche pas d'une amourette. L'amour ne fait pas le bonheur, tandis que l'argent guérit de tant de misère.
Il ne faut pourtant pas s'enchaîner au supplice jusqu'à la mort.
Tu as donc quelqu'un en vue ? Une fille honnête, naturellement.
Oui, et je crois qu'elle sera de ton goût, parce que nous sommes un peu cousins.
Maman Lagrifoule se leva lentement, sans répondre un mot, pour changer les assiettes, servir le dessert. Lorsqu'elle fut de nouveau assise, elle dit d'un ton maussade
« C'est pas difficile à deviner. Tu parles d'Hélène Charmasson, la fille du libraire. »«
Eh bien, ça te va ?»«
Mon Dieu, je ne dis pas non. Seulement, elle a 28 ans, presque ton âge. »
Je suis sûr d'avoir avec elle une femme laborieuse, attachée à ses devoirs et qui a l'expérience des difficultés de la vie.
En effet, Charmasson n'est pas riche, cet escargot qui, plus encore que moi, s'est enfermé pour toujours dans sa coquille. Allons, tu as ton affaire en tête et tu es têtu. Après tout, le choix n'est pas mauvais. Elle est jolie et elle le restera longtemps. Avoue que je ne suis pas un très bel homme, moi.
Par exemple, l'homme a le droit de ne pas être beau. Personne n'y fait attention.
Enfin, bref, quand veux-tu que j'aille faire la demande ?
Quand tu voudras.
Quelques jours après, maman Lagrifoule, qui ne sortait que le dimanche pour aller à la messe, apparut après-midi dans la rue en robe noire de cérémonie et bonnet plus coquet qu'à l'ordinaire. Ce fut un événement pour le quartier de la place. Comment eût-elle évité, au-delà de l'église en tournant sur sa gauche, le pâtissier Julien, unique vis-à-vis de l'épicier Pouget, en train de causer, à l'autre bout de la courte rue Saint-Roch, laquelle ne présente des maisons que d'un seul côté, avec M. Fornet, le cossu marchand de lainage.
Et où vous allez comme ça, Madame Lagrifoule ?
Peu cher, je vais chez mon cousin lui dire un petit bonjour, M. Julien.
« Savez-vous, madame, maugréa M. Fornet, qu'on dit que votre fils va s'établir mercier pour me faire concurrence ? Laissez donc les gens qui ne demandent qu'à tout embrouiller. »
Les boutiques de Pouget, de Courtès, d'André et d'Azéma reposaient dans un doux silence. Chacun de ces messieurs savourait son café dans sa cuisine. Alors madame Lagrifoule put s'esquiver assez vite. Mais dans la rue de Castelnau, qui longe le côté est de la halle, il y avait l'ami Boyeroun, la boulangère, les Dévic, marchands de parapluies, qui traînaient une éternelle misère, puisqu'on n'utilise pas beaucoup les parapluies sous un climat toujours illuminé de soleil. Puis il y avait la librairie Charmasson, que la ruelle des Fours séparait de la draperie Escourbiac, du débit de tabac Treillé, de la corderie Thieur et de la grande horlogerie Vernazobre. Tous ces braves boutiquiers prenaient le frais sur le trottoir. Madame Lagrifoule fut bien obligée de les saluer tous, de s'enquérir de leur santé, de la conduite de leurs enfants. Aussi était-elle un peu lasse lorsqu'elle ouvrit la porte vitrée de la librairie. La sonnette tinta longtemps jusque là-bas dans la cuisine où Madame Charmasson, qui était de petite et lourde taille, avait toujours quelque chose à préparer ou à nettoyer, tandis qu'Hélène balayait sa chambre au second étage. Ah, certes, depuis des années, Hélène avait renoncé à l'espoir de se marier, malgré les agréments de sa personne, malgré l'excellence de son éducation. M. Charmasson avait toujours fait de son mieux, du moins il le croyait, pour entretenir dignement sa maison. Mais il n'avait pu amasser pour sa fille la moindre dot. La boutique était exiguë, riche en livres classiques, en cahiers, plumes, images, le tout rangé sur des étagères, depuis le parquet jusqu'au plafond. À son odeur d'encre, de poussière et de papier, se mêlaient grassement l'émanation de la cuisine, où souvent rissolait de l'ail ou de l'oignon. M. Charmasson était assis dans son fauteuil, délabré par l'usage, derrière sa banque, quand maman Lagrifoule entra. Il se leva bien vite, grand et fort, une figure de brave homme dont les yeux bleus brillaient derrière les lunettes rondes et dont la barbe blanchissante se parsemait de grains de tabac.
« Bonjour, cousine, quel bon vent !»«
Une importante nouvelle. Ma cousine n'est pas là ?»«
Si, si. Marguerite !»
Ne la dérangez pas, je la trouverai bien. D'abord, suivez-moi.
Oh oh, est-ce qu'il y a un malheur ?
Au contraire.
La cuisine, moins exiguë que la boutique, prenait par une fenêtre un faible jour de la ruelle. Marguerite, qui était debout devant son fourneau, se détourna tranquillement pour embrasser maman la Griffoule.
« Tu as bien fait de venir, lui dit-elle. On ne se voit pas souvent. Qu'est-ce que tu veux ?
Tais, asseyons-nous là. »
On prit place tous les trois autour de la vieille table des repas. Et maman la Griffoule, dénouant sous le menton les brides de son bonnet pour avoir moins chaud, demanda
« Où est Hélène ?»«
Dans sa chambre. Je vais l'appeler. »«
Non, non, c'est d'elle qu'il s'agit. »«
Ah ah !
Vous voulez la marier ?»«
Mon Dieu, pourquoi pas ?
Et pour qui ?»«
Pour mon fils. »
« Isidore ?
Ça ne va pas ?
Mais si, à nous, ça va parfaitement. Pas vrai, Charmasson ?
Seulement, il faut savoir les intentions d'Hélène. Tu sais, cousine, que nous n'avons pas honte de n'être pas riches. Nous n'avons pas de dot à lui donner.
Ça ne fait rien, c'est Hélène que désire mon fils. »
« Je ne crois pas qu'Hélène refuse, » répondit cette fois la grosse voix de Charmasson. « Seulement, il faut qu'Isidore soit sage. »
« Oh, il est si brave !»«
On prétend qu'il veut tout bouleverser dans Musclas. C'est que nous ne sommes pas à Paris. »«
On le regrette tant, à Paris. »«
À Paris, ma fille n'ira jamais. Dites-le fermement à Isidore. »
Maman la Griffoule se met à rire d'un rire un peu narquois.
« Pourquoi voulez-vous qu'il aille à Paris ? Il est si heureux auprès de sa mère. Il est si jeune, pardi, il a du sang. Mais à nous tous, on le tiendra serré. »
« Alors, dans 4 ou 5 jours, donnez-moi réponse. »«
Entendu. À part ça, comment allez-vous »«
Très bien. Ma vigne de la Roustanienque est superbe. L'argent rapporte assez gros chez Gauzy. »
Ils sourirent tous les trois, contents de s'émouvoir des mêmes illusions.
Toujours un peu sucrée, maman la Griffoule, après qu'elle eut renoué les brides de son bonnet, s'en alla d'un pas discret.
« Chut, chut ! Il ne fallait pas que le voisinage devinât le motif de sa visite. »
Au lieu de s'en retourner à la rue Saint-Jean par le chemin de tout à l'heure, elle remonta vers le carreau opposé de la halle, vers le quai, en longeant l'horlogerie Vernazobres, puis les chaussures Bec et la pharmacie Cassan. Tout le monde était stupéfait de surprendre maman la Griffoule si loin de chez elle et si bien habillée.
« Isidore, qu'est-ce qu'il devient ?» lui demanda ce bavard de Cassan.
Il est allé faire un tour au Grand Jeu.
Est-ce vrai qu'il veut organiser un bazar à l'instar de Paris ?
Mais non ! Qui vous a dit ça ?
On le dit.
Maman la Griffoule s'éloigna dard en haussant les épaules. Tout de même, elle s'inquiéta de tant de commérages qui représentaient son fils comme un révolutionnaire. Pendant ce temps, il y avait conciliabule à la maison Charmasson. Hélène, en descendant de sa chambre, avait eu grand émoi de trouver dans la cuisine son père et sa mère, assis à table, gravement.
« Assieds-toi, ma petite !» commanda le père.
« Qui est-il donc ?»«
La cousine la Griffoule sort d'ici. Sais-tu ce qu'elle nous a proposé ?»
Hélène rougit de pudeur, d'inquiétude, et s'écria
« Je sais, je sais !»«
Non, petite, c'est impossible !»«
Pardon !» Il s'agit de moi, d'un mariage pour moi. Isidore, quand il me rencontre, a des façons de me regarder.
J'ai compris.
Elle porta ses mains au visage, poussa un profond soupir et, les coudes sur la table, demeura immobile.
Je vois qu'Isidore ne te plaît pas, interrogea M. Charmasson.
Pas trop. Certes, il a du bien, mais avouez qu'il n'est pas beau. Et puis, ses manières avantageuses ne me conviennent guère, à moi qui suis si simple.
Il n'est pas méchant, tu le guideras à ton gré.
Ce n'est pas sûr. S'il a du bien, n'est-il pas capable de le dissiper en fantaisie?
Tu raisonnes comme un homme d'affaires.
Sais que je ne suis plus jeune, j'ai quelque expérience.
Quand nous serons morts, ta mère et moi, que deviendras-tu si tu es seule?
C'est vrai, tout cela n'est pas facile à concilier. D'un côté, la tentation de me marier, de l'autre, la crainte de me noyer. »
Tout à coup, elle sanglota dans son chagrin de résister à un projet qu'elle sentait agréable à ses parents.
Hélène, voyons, ne pleure pas, il n'y a vraiment pas de quoi. »
M. Charmasson lui tapotait les mains avec chaleur, ses mains si douces, si intelligentes, qui savaient tout faire, tenir la comptabilité du magasin, seconder sa mère au ménage, confectionner des toilettes, ravauder. Elle leva un front timide et, d'une voix haletante encore, elle murmura
« D'ailleurs, je ne vous ai pas dit non, je réfléchirai.
C'est ça, ne nous pressons pas. »